Nous sommes jeudi 13 août. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est une autre journée chaude, humide, ensoleillée, qui est prévue avec un maximum de 29 pour aujourd'hui, l'humidex 33. Et disons que c'est un peu, beaucoup le même scénario que les derniers jours. Puis demain, vendredi, quelques nuages, mais beaucoup de soleil. Un petit peu moins humide, un petit peu moins chaud, mais ça, quand même, ça demeure quand même, pardon, dans des températures comme 27-28 degrés. Pour ce qui est du week-end, pour l'instant, ça varie un peu. Mais disons que samedi, c'est soleil-nuages autour de 29 degrés encore une fois. Et dimanche, on prévoit du temps un peu plus maussade. Environnement Canada prévoit de la pluie intermittente, quelques millimètres et autour de 24 degrés. Si je regarde les prévisions pour la semaine prochaine, on ne sera pas dans des 30 degrés, là, 31 degrés. Ça tourne autour davantage de 25 degrés. Je ne sais pas si c'est concours de circonstances, mais ça fait beaucoup de nouvelles cette semaine qui concernent des enfants maltraités, des enfants négligés, des enfants échappés par le système. Quand j'écoute Marie-Laurence me décrire comment ce bébé de quelques jours seulement, le 19 jours, a subi une fracture du fémur, puis le gars nous tente de nous faire croire que c'est arrivé par accident en changeant une couche, je veux dire, quand même, là. Mais des cas de négligence, puis des cas de Et ce rapport qui est arrivé aussi de la Commission des droits de la personne qui nous explique que, encore une fois, on dépense de l'argent, on investit pour la protection des enfants au Québec. Il y en aura toujours des enfants qui vont avoir besoin d'une protection de l'État parce que, qu'est-ce que vous voulez, il y a des parents, des adultes irresponsables, inaptes, qui sont soit incapables de s'occuper de leurs enfants ou encore qui sont dangereux. Et il y a un roulement de personnel, on n'est pas capable de donner les services puis d'accorder la protection. Puis bon, arrivent des drames comme ceux-là. Puis c'est peut-être concours de circonstances, mais je ne sais pas vous, mais moi, ça me sonne à chaque fois quand j'entends ces descriptifs. Bon, je vais commencer ce matin par la COVID-19, juste quelques nouvelles. D'abord, on peut dire de façon générale que c'est assez stable au Québec. Et on a encore hier eu l'illustration des carences sur la transmission d'informations. On a appris hier, et c'est ça qui était quand même assez hallucinant, on a découvert des morts qui étaient dans une résidence, une dizaine de cas, et on avait, semble-t-il, la place, la fameuse place, là, une résidence pour aînés de Westmount, Kensington, qui n'aurait pas transmis l'information. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que on a envoyé ça par la poste? C'est vraiment pathétique de voir l'état, je dirais, technologique du Québec. Puis c'est peut-être dans une crise comme ça qu'on le mesure encore plus. L'utilisation de fax, d'envoyer des bilans par la poste, je veux dire, ça se peut pas, là, de fonctionner de cette façon-là. Mais quand même, on constate, et c'est probablement dû en partie aussi à l'utilisation du masque, une baisse du nombre de gens qui sont contaminés. Premier constat. Dans la presse ce matin, on nous parle d'une fête, et j'en parle parce que c'est peut-être justement dans des cas comme ça qui ont l'air de rien, mais qui peuvent générer un bon nombre de gens contaminés. C'est une trentaine de jeunes qui auraient participé à une fête le week-end dernier, et jusqu'à maintenant, il y a au moins 6 cas de jeunes qui sont infectés. Alors, c'est dans le quartier Sainte-Rose à Laval, et donc 6 jeunes sur 27 sont testés positifs, puis il y en a qui attendent les résultats. Et un des pères se confie en disant qu'il y avait du monde partout. Lui, il a découvert ça après, là. Pas de distanciation physique. Les jeunes ont joué à des jeux de calage, partageaient des verres, partageaient des vapoteuses. Je suis de ceux, dit le père, je cite, qui pensent que les messages aux jeunes ne passent pas, et j'en prends une partie du blanc, mais le gouvernement est trop mou dans ses directives. Alors, les fêtes privées, d'abord le nombre, puis en même temps, la consommation d'alcool et l'absence de distanciation. Et c'est sûr que pour des jeunes, la notion d'être malade, c'est quelque chose d'abstrait, là. On a l'impression que ça n'arrivera pas, puis qu'il n'y a rien là, puis c'est pas grave. Or, ils se retrouvent. Puis probablement que la plupart des cas auront des symptômes légers, pas trop graves, mais ils peuvent transmettre à des gens cependant qui sont plus vulnérables. En passant, l'imposition du masque respecte la Charte des droits. Décision qui a été rendue, qui va vraiment être contestée, mais quand même, premier volet là-dessus. L'autre chose, ça concerne les gens qui voyagent. Et le Journal de Montréal nous dit ce matin que 13 vols provenant du Canada et aussi de villes étrangères se sont posés au Québec avec à bord au moins une personne atteinte de la COVID depuis le début du mois d'août. C'est quand même sur une courte période de temps, 1er au 7 août. Donc, des vols d'Air Canada, par exemple, provenance de Vancouver-Toronto, plusieurs vols. Et pour ce qui est des vols internationaux, il y a eu des cas avec Air Transat, un vol Cancun, Air France sur Paris, Punta Cana, Cancun, Lisbonne, Mexico. Bon. Et là, vous allez me dire, ouais, mais je pensais qu'il y avait des interdictions de voyage. D'abord, les gens voyagent, les compagnies ont commencé à remettre, les opérations reprennent, un. Deux, on dit aux gens, voyager si c'est nécessaire, il y en a qui doivent. Peut-être qu'à Punta Cana puis Cancun, pas certain qu'il y a bien du monde qui sont obligés d'aller là, mais bon. Mais il y a une directive, c'est qu'en revenant, il faut que tu te places en quarantaine, c'est 14 jours. Et je posais la question ce matin en disant, est-ce que les déclarations sont vérifiées? Autrement dit, quelqu'un qui arrive à l'aéroport puis qui dit oui, je m'en vais chez nous, puis n'ayez pas peur, puis ça va être correct, puis je m'engage à respecter ça. Il y a un policier qui m'a écrit de la GRC qui est justement déployé à la protection frontalière, je dirais pas... Je ne donnerai pas trop de détails. Là. Il dit, je peux vous confirmer qu'on procède à des contrôles de quarantaine COVID régulièrement. Puis il y en a un autre qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait des vérifications téléphoniques, mais aussi des vérifications physiques, qu'on allait des fois cogner à la porte du monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent, là. Eux autres, là, ils reviennent de Paris, puis ils se disent, c'est pas grave, puis il y a rien là, puis j'ai pas de symptômes, puis ils fonctionnent comme si de rien n'était. Et ils refusent. Mais vous devez respecter cette quarantaine et rester chez vous. Et ce sont les policiers de la GRC, donc, qui pourraient, ultimement, parce qu'ils peuvent vous appeler le soir, ils peuvent vérifier à n'importe quel moment, vous allez dire, ouais, mais le cellulaire, mais bon. Il me semble que c'est un minimum. Et dernier volet aussi, on voit que la Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus inquiétant. C'est pas beaucoup de cas, mais il y a un foyer d'éclosion. Ils ont, après, je pense, une centaine de jours avec zéro cas. Là, c'est maintenant 13 cas. C'est à la plus grande ville du pays. Et là, ils ont mis certaines contraintes aux gens. On n'est pas dans le confinement pur et dur, là. Mais je regardais ce matin, là, c'est le niveau 3. Décision qui pourrait aussi être changée dès demain, là, si on pense qu'il faut y aller encore plus raide. Mais ça veut dire que, par exemple, toutes les écoles, les garderies, les entreprises non essentielles sont fermées à Auckland. Et ils ont décidé donc que de permettre aux gens de se déplacer pour le travail ou encore pour faire des courses là, essentielles ou tout simplement pour faire un peu d'exercice, prendre l'air. Là. Mais la première ministre qui, partout dans le monde, est vantée pour sa gestion de la crise, à quel point la Nouvelle-Zélande a adopté une politique ferme, solide et a pu nettement limiter les dégâts. Là, il y a une préoccupation. Vous me direz, c'est pas énorme, tous ces cas-là, mais quand même, on veut justement pas que ça dégénère. Alors voilà, ça fait un peu le tour ce matin. Puis peut-être un mot sur la consultation à Québec, là, concernant l'application. Puis le principe de base le plus important, là, il faut qu'il y ait une adhésion très forte. Il faut que ça soit dans le 55, 60, 65 % des gens qui acceptent comme ça de participer à l'expérience pour être capable de détecter des cas, donc des gens qui auraient été en contact avec des personnes contaminées. Et Shopify, qui est l'entreprise qui a eu le contrat du fédéral, vient même pas se pointer à Québec pour répondre aux questions des parlementaires. C'est pas assez baveux à votre goût, un. Deux, là, on sait très bien que ces entreprises, au-delà de proposer une application pour sauver des vies, là, comme elles le prétendent, il y a toute la gestion des données privées. Et je sais que pour beaucoup de politiciens, ce n'est pas une question très importante. Là, on voit à quel point on n'a pas beaucoup, disons, de mesures sévères. L'enquête sur Desjardins, des gens qui m'écrivent, il arrive quoi? Il arrive rien. Ce que je vous dis, les derniers échos qu'on a eus, c'est que Desjardins refusait de collaborer vraiment, là, et que Desjardins cherchait surtout à se protéger. parce que c'est peut-être pas du matériel très joli qui pourrait sortir de l'enquête, mais ça, on verra bien. Alors, c'est quoi les garanties qu'on a? C'est quoi les engagements, puis pas des engagements bidons? Et l'entreprise vient même pas répondre aux questions. C'est-à-dire, d'abord, c'est insultant. Et strictement pour ça, je vois pas pourquoi on devrait collaborer avec l'entreprise choisie par le gouvernement. Tu n'es pas capable de venir m'expliquer puis répondre à mes questions. Tu veux pas? Bye. Mais là, on a d'autres experts qui vont continuer comme ça. Merci beaucoup. Un mot sur la situation au Liban. D'abord, le Parlement libanais se réunit pour entériner l'état d'urgence à Beyrouth, après évidemment cette explosion meurtrière. Les gens sont furieux. J'ai reçu beaucoup de courriels de gens de la communauté libanaise de Montréal qui ont évidemment des amis, des proches, membres de la famille là-bas. Il y a encore des appels à manifester qui circulent. Il y a cette haine, cette colère devant ce gouvernement qui a beau lever les feutres. Mais je voyais des pancartes hier, puis des réactions. Et c'est une haine à l'endroit du gouvernement et c'est pas l'état d'urgence. Même encore aujourd'hui, il y a une espèce une forme de laxisme des autorités dans une ville qui est dévastée et ce sont des organisations internationales qui interviennent. Vous savez, quand on dit depuis le début qu'il ne faut pas donner une scène au gouvernement, il faut que ça passe par d'autres organismes. En voilà un exemple assez clair. Maintenant, revenons à Montréal. Il y a un cas qui est raconté ce matin dans The Gazette au sujet d'une intervention policière qui a eu lieu vendredi à Montréal-Nord. Les policiers ont été appelés. Il y avait, semble-t-il, un conflit, dispute, là, probablement une bagarre aussi, impliquant une quinzaine de personnes dans la rue. Et là, il y a une femme qui a filmé une partie des événements. Et c'est souvent le problème avec les vidéos, là, c'est qu'on n'a pas tout. Et là, ce qu'on voit, après ce qui est rapporté dans The Gazette, ce sont les policiers qui interviennent. Elle prétend que les Noirs sont davantage ciblés. Quelle est la nature de la confrontation? Je ne sais pas. Et son fils, à elle, aurait été immobilisé par les policiers il y a 13 ans. Il était en train de filmer, puis là, la police l'aurait pris, immobilisé au sol, et l'aurait maintenu avec le genou dans le dos. Puis là, il y aurait eu également l'utilisation du poivre de Cayenne. La police répond que les gens ont tenté de résister à la police, qu'il y a eu entrave, mais que les policiers ont fait leur job. On sait que depuis ce qui est arrivé à Floyd aux États-Unis, il y a eu tout ce mouvement pour dénoncer le profilage, tout ce mouvement pour dénoncer le comportement. Et je vais être précis là, probablement raciste de certains policiers. Je ne repartirai pas le débat là, sur le racisme systémique. Mais en même temps, est-ce que ça paralyse les opérations policières? Je peux vous dire que dans certains cas, aux États-Unis, puis la réalité là-bas n'est pas la même qu'ici, là, je comprends. Mais la réalité policière là-bas, c'est que on lève le pied. Et il y a une augmentation de la violence dans une ville comme New York. On n'avait pas noté depuis quand même un bon bout de temps. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui nous écoutent ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation à Montréal-Nord ou dans d'autres quartiers plus chauds de Montréal, mais c'est sûr qu'il y a comme une espèce de tension quand tu vas intervenir. Puis là, c'est tout le débat sur les caméras obligatoires. Parce que moi, j'ai eu ça des vidéos partielles. Quand les premières images que tu vois, c'est quand la police intervient comme telle. Mais il est arrivé quoi avant? Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'avoir quelques pressions. C'est dans The Gazette que vous retrouvez ça. Puisqu'on parle de Montréal, il y a un texte de Mario Girard ce matin qui est bien intéressant à lire concernant une consultation pré-budgétaire lancée par la Ville de Montréal. On sait que la Ville perd des revenus, évidemment à cause de la crise. Et quels sont les choix de la Ville? Demander à Québec de faire un déficit? De couper dans les dépenses? Ou encore d'augmenter les taxes à un niveau supérieur à l'inflation, parce que c'est sûr que les taxes vont augmenter. Des taxes qui étouffent beaucoup de commerçants, des taxes qui sont élevées pour les citoyens. Et là, cette consultation prend, disons, une bizarre de forme. D'abord, M. Girard nous explique que tu peux participer tant que tu veux. Il n'y a pas de contrainte. Des gens qui ne sont pas de Montréal peuvent participer. Autrement dit, c'est bidon, c'est pas rigoureux. C'est du grand n'importe quoi, c'est un spectacle. Probablement pour cautionner les intentions de la Ville. Alors, la Ville veut faire quoi avec ça? Ils regardent des scénarios d'augmentation de taxes. Puis ils disent aux gens, bien, si vous ne voulez pas qu'on augmente les taxes, ben peut-être qu'il faudrait réduire certains services. Et là, on dit, par exemple, couper dans le service de police, ça, c'est la nouvelle tendance, le nombre de collectes d'ordures ou encore de chargement de la neige. Et on peut également proposer d'autres formes de coupures. Alors, la Ville de Montréal n'est pas en train de nous dire qu'ils font l'exercice comme s'il n'y avait pas, disons, matière peut-être à réduire la taille de la Ville de Montréal. Puis là, ils vont sur des points sensibles. Vous voulez moins de police? Vous voulez qu'on ramasse vos vidanges moins souvent? Voulez-vous qu'on vous laisse dans des rues enneigées? C'est un peu cheap comme approche. Et c'est surtout que c'est une consultation qui tient pas la route. Et on va parler aussi ce matin avec le responsable de l'urbanisme et de la mobilité sur un peu le bilan. Ça ne sera pas complet, là, mais on va le faire avec Eric Allen Caldwell sur l'implantation des corridors sanitaires, des voies et des pistes cyclables aménagées à travers la ville, où on a donné il y a quelques semaines, là, par exemple, fréquentation sur Mont-Royal du nombre de piétons. On va faire une espèce de petit bilan de ça. Il y a eu des augmentations pour la SAQ qui seront annoncées, en fait, dimanche. Là, ça entre en vigueur dimanche. C'est toujours un peu la même chose. Quand on annonce les augmentations, on vous dit « Ah, la hausse moyenne, c'est 1,8 %. » Mais dans les faits, et le Journal de Montréal donne des exemples assez précis, vous avez quelques produits, par exemple, où ça passe effectivement de 15,55 $ à 15,95 $. Dans d'autres cas, l'augmentation est plus importante. C'est 1 $, 1,20 $ plus la bouteille. Et selon certains experts cités, c'est l'une des plus importantes hausses en termes de quantité de bouteilles depuis une période de 10 ans. Alors, le prix d'environ 3 400 produits seront augmentés. Il y aura des produits dont le prix sera aussi revu à la baisse. Et je vais parler un peu plus tard ce matin avec également Roch Bissonnette, qui est président de A3 Québec, qui regroupe des agences de vin, de bière, de spiritueux. Et ce sont eux, entre autres, qui ont négocié donc avec la Société des alcools du Québec. Alors, on va faire le bilan de ça. Puis aussi, parmi nos invités, Jonathan Marchand, qui ne veut pas vivre dans un centre de soins de longue durée. Il a 43 ans et il ne se voit pas là. Puis il dit, avec l'argent que le gouvernement dépense, je pourrais très bien rester chez moi pour avoir de l'aide à domicile. Marguerite Blais lui a dit, je te promets que tu vas sortir d'ici 2 ans. 2 ans, c'est long, me semble. Alors, donc, on va pouvoir lui parler ce matin. Puis aussi, un petit mot sur les ventes de métro. Métro a publié ses chiffres hier. Ça va très bien. Les gens achètent beaucoup. Et c'est une augmentation importante des ventes. Par contre, ça va un peu moins bien du côté commercial d'un pharmacie. C'est, en gros, les gens, là, d'abord, ils achètent moins de trucs pour se maquiller puis des produits de beauté. Ça, c'est la première affaire, tu sais. Télétravail. Deuxièmement, les gens vont peut-être renouveler leurs ordonnances, ça c'est correct, mais ils achètent, transfèrent, pas totalement, mais beaucoup de trucs. Ce que tu achètes en pharmacie, là, tu sais, quand tu allais faire quelques courses, ben tu dis, je vais à l'épicerie, puis tant qu'à être là, on va tout prendre, puis shampoing, puis tout ça. Alors, disons qu'il y a eu une espèce de transfert, et Métro veut faire comme Walmart, c'est-à-dire, on veut investir, on va demander à nos fournisseurs de contribuer. Fait que c'est pas du chantage, mais vous voulez vendre produits chez Métro, vous allez nous aider à payer pour ces investissements.